Cette année, GMF est élu numéro 1 de la relation client dans le secteur assurance. C'est aussi ça, être assurément humain. Et en ce moment, profitez de 2 mois offerts pour toute souscription de contrat auto jusqu'au 30 juin. GMF, assurément humain. Enquête 2026, Bearing Point et Kantar, conditions de l'offre sur gmf.fr.
Mel, à tout à l'heure pour le grand entretien. On embrasse Bertrand Chameroy et on annonce que France Inter, il est 8h. Et oui, pour une fois, on est très à l'heure pour le journal d'Hélène Philly. Bonjour.
Bonjour à tous. La police britannique sous le feu des critiques après la mort d'un étudiant. 1 millier de personnes, beaucoup d'extrême droite, dans les rues de Southampton hier soir pour réclamer justice. Des agents de police pris pour cible. Le gouvernement dénonce des violences honteuses. Nous sommes sur place. L'enquête sur la disparition de Liana dans le Gers. Aucune trace de la collégienne. Et l'on découvre que le principal suspect était déjà visé par plusieurs plaintes. La une, c'est aussi la vie des Ukrainiens sous les filets anti-drones. Nous sommes au plus près du front dans quelques minutes. Le PS tranche sur son incarnation pour la présidentielle, vote le 9 juillet prochain. L'hommage national à Edgar Morin aux Invalides ce matin. Et puis le foot pour tous, c'est toute la journée sur France Inter. Nathalie Yanetta, directrice des sports de Radio France, dans ce journal tout à l'heure pour nous dire ce que représente ce sport, premier sport collectif pratiqué par les jeunes. Et puis dans 20 minutes, Florence,
un grand entretien en longueur avec l'homme le plus attendu du moment, c'est Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France de foot, qui nous a reçus à Clairefontaine à 8 jours du coup d'envoi du mondial. Ce sera son dernier. Avant de passer la main, il a répondu à nos questions sans langue de bois, interrogé par de tout jeunes joueurs aussi. Rendez-vous dans 20 minutes avec un double champion du monde détendu et concentré. Vous allez l'entendre.
France Inter.
C'est une vidéo qui met le feu aux poudres au Royaume-Uni, diffusée hier après la condamnation d'un jeune homme sikh pour le meurtre d'un étudiant britannique poignardé en décembre dernier à Southampton. On y voit la police arriver sur place et se méprendre, croyant l'agresseur agressé. L'indignation est immédiate. 1 millier de personnes, dont des figures d'extrême droite, se rassemblent devant le commissariat de la ville. Bonjour Gaëlle Joly.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante au Royaume-Uni en direct de Londres. La manifestation de Southampton a rapidement dégénéré hier.
Oh oui, réunis à l'appel de l'activiste d'extrême droite Tommy Robinson, ils sont venus avec des drapeaux britanniques et ces pancartes « Honte à vous, justice pour Henry Novak » ou encore « Flic raciste hors de nos rues ». Les manifestants lancent des bouteilles, des briques et des poubelles sur les forces de l'ordre avant de se diriger dans la rue où habite la famille du meurtrier. Des scènes jugées inacceptables par la ministre de l'Intérieur, Shabana Mahmoud, qui dénonce une instrumentalisation de cette tragédie, alors que le chef du parti anti-immigration, Nigel Farage, a fustigé un racisme anti-blanc et une police à 2 vitesses.
Et que voit-on exactement, Gaëlle, sur la vidéo qui fait polémique ?
Alors, dans cette vidéo qui a tant choqué le pays, on entend le jeune étudiant Henry Novak menotté, allongé au sol, agonisant, murmurer à plusieurs reprises « J'ai été poignardé, je n'arrive plus à respirer ». Mais les agents de police, eux, croient au récit du meurtrier, un jeune sikh qui prétend avoir été victime d'agression raciste alors qu'il vient de l'attaquer avec un couteau de 20 cm. Le jeune homme meurt quelques minutes plus tard. Le premier ministre travailliste Keir Starmer a qualifié les images d'atroces. Il dit avoir eu la nausée en les visionnant, ajoutant que la police allait devoir répondre à des questions graves. Une enquête de la police des polices est en cours. Les conclusions seront connues d'ici 3 mois. L'un des policiers impliqués a démissionné hier.
Gaëlle Joly, correspondante de France Inter en direct de Londres.
En France, combien d'alertes ignorées ?
Le principal suspect de la disparition de la jeune Liana dans le Gers, mise en examen pour enlèvement, était connu des autorités depuis plusieurs années déjà, visé par 2 plaintes, dont une pour viol depuis août dernier. Le procureur de Toulouse l'a confirmé hier, affaire dans laquelle il n'a jamais été entendu. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
Comment l'expliquer ?
Alors ce que l'on sait, c'est que cette plainte est passée de bureau en bureau, du parquet de Toulouse à celui d'Auch, où elle arrive en octobre dernier, plus de 2 mois après avoir été déposée. Mais ce qui interroge surtout, c'est l'après. La gendarmerie de Fleurance n'est saisie que depuis janvier de l'enquête. Et dans cette enquête, ni garde à vue, ni audition du suspect, selon son avocate. Pourtant, les faits dénoncés sont parmi les plus graves du code pénal. Viol répété pendant plusieurs mois, sur mineur, en l'occurrence une amie de sa fille qui venait à son domicile, une fillette de 10 ans. Pourtant, cette dénonciation n'est pas la première. En 2020. Une plainte, elle aussi pour violence sexuelle, elle aussi sur mineur, est classée sans suite et le casier judiciaire du suspect restait vierge. Pourtant encore, l'homme qui travaillait dans plusieurs lycées du Gers avait été licencié suite à un signalement pour comportement inapproprié sur une élève qu'il contactait sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi ces délais? Question lancinante, douloureuse même, à l'aune de la disparition de Liana, la collégienne recherchée depuis maintenant 6 jours et au sujet de laquelle le quadragénaire n'a pas voulu donner d'éléments au juge d'instruction.
Merci beaucoup Charlotte Piret du service police justice de France Inter. La responsabilité de l'État dans le scandale du chlordécone, le dernier vote unanime hier soir à l'Assemblée d'une responsabilité de l'État dans ce scandale, pesticide largement utilisé dans les bananeraies et dont les études scientifiques ont démontré qu'il entraînait un risque de développer certains cancers. Qui sera sur la ligne de départ à gauche pour la présidentielle? Jean-Luc Mélenchon y allant tout seul, une primaire a-t-elle de l'avenir? Le PS tiraillé face à des candidatures qui se multiplient. Le premier secrétaire Olivier Faure propose donc de trancher le 9 juillet prochain, Laurence Perron.
On l'a accusé de se planquer, de jouer la montre, d'avancer au gré du vent. Le patron du PS reprend l'initiative et impose son calendrier à ceux dont l'activité principale est, selon un proche, de lui déverser des torrents de boue. Le 9 juillet, donc, il souhaite convoquer un scrutin des militants socialistes pour désigner le ou la candidate du parti. Un vote électronique et c'est une première au PS. L'élu devra s'engager à participer à la primaire de la gauche démocratique et écologiste à l'automne, celle que promeuvent Marine Tondelier, François Ruffin ou encore Clémentine Autain. C'est habile, cela obligerait les opposants à cette primaire, notamment Raphaël Glucksmann, de s'y inscrire, faute de quoi il ne pourrait bénéficier des moyens du parti. Cela forcerait aussi un François Hollande, qui observe à présent à distance comment son entrée dans l'atmosphère est vécue et qui n'avait pas l'intention de se déclarer avant décembre. Le premier secrétaire du PS estime qu'il est désormais temps d'en finir avec, dit-il, de petites ambitions de Premier ministre quand il est urgent de trouver un présidentiable capable de battre le RN.
Laurence Perron, service politique de France Inter.
Et l'Ukraine harcelée par les drones russes.
Moscou a beau être en difficulté sur le terrain, l'armée russe ne laisse aucun répit aux Ukrainiens. Attaques de nuit comme de jour à Kiev, les habitants redescendent aux abris. Et à Kharkiv, plus près de la frontière à l'est, les autorités viennent d'ordonner l'évacuation de 7000 personnes. Bonjour Isabelle Labéry. Vous êtes
Bonjour.
Notre envoyée spéciale Isabelle. Dans l'est de l'Ukraine, les civils sont bien de plus en plus visés par Moscou et pourtant, chacun à leur manière, ils tentent toujours de résister.
Et oui, les alertes antiaériennes résonnent si souvent dans leur ville de Kharkiv que Gian et Ajax, la vingtaine, ont fini par couper toutes les notifications de leur portable. La nuit, quoi qu'il se passe désormais, ils ont décidé de dormir.
Sinon, c'est impossible de travailler. Peu importe s'il y a eu une attaque pendant la nuit, le matin, tu dois te réveiller et aller bosser. C'est ça la réalité.
Là, par exemple, ça sonne, vous vous en fichez complètement.
Oui, et tout le monde s'en fiche. Regardez, personne ne cherche un abri.
On s'est habitué. Ce n'est pas normal de s'habituer, de négliger constamment les alertes. Mais que faire ? C'est notre quotidien.
Partout, le fatalisme a remplacé la prudence. Dans le Donbass, la ville de Sloviansk est désormais à portée des drones russes. Et depuis un mois, des filets de protection recouvrent la rue où habite Lyubov, 62 ans, tenue soignée et chevelure cuivrée flamboyante.
Les filets, c'est un soutien moral, mais ils ne fonctionnent que contre les petits drones FPV. À une maison d'ici, une bombe d'une tonne et demie est tombée du ciel. Face à ça, c'est impossible de se cacher. Mais chaque ville tient grâce à un certain nombre d'Ukrainiens qui croient qu'en aucun cas, l'armée ne laissera les Russes entrer. C'est pour ça que moi, je reste.
Et pourtant, la moitié des habitants de Sloviansk sont déjà partis. Les autorités préparent même de nouvelles évacuations.
Merci beaucoup Isabelle Labéry en direct de Sloviansk, dans le Donbass, avec les moyens techniques de Marc Garvenès. Et la nuit a encore été agitée dans le Golfe. L'Iran a tenté de frapper des bases utilisées par les États-Unis dans les Émirats voisins. Le Koweït se dit attaqué pour la deuxième fois en 3 jours, sans que les négociations entre Washington et Téhéran avancent.
Les prix à la pompe restent donc au plus haut. Mais sur le risque de pénurie, Air France et sa compagnie sœur KLM restent rassurants, n'ayant aucune crainte pour l'approvisionnement en carburant l'été prochain. La baisse des températures des derniers jours fait du bien. Et pas seulement à notre organisme. L'établissement français du sang espère voir revenir les donneurs qui ont déserté les centres la semaine dernière. Un trou dans la collecte à une période déjà peu propice aux dons, le mois de mai et tous ses ponts. Il manque 15 000 poches de globules rouges pour revenir à un niveau jugé stable. Gabin Grulet s'est rendu dans une maison du sang parisienne.
Les jambes légèrement surélevées, une bouteille d'eau à portée de main, Louis attend sa piqûre.
Ah, regardez, je suis là, la température a baissé.
Cet habitué n'a même pas envisagé de faire un don la semaine dernière.
Quand il fait chaud chez nous et il fait chaud dehors, on n'a pas forcément envie de sortir, une espèce d'apathie, j'ai envie de faire une sieste, de mettre en terrasse, avoir une petite binouse.
La clim, les packs d'eau, les brumisateurs n'ont pas suffi à attirer du monde.
Voilà.
Louis tend son bras à Eva, infirmière.
On a eu beaucoup d'annulations et on a eu aussi beaucoup de malaise par déshydratation. On est obligé de compenser cette perte de volume par de l'eau. Mais quand on a chaud, on transpire, donc il faut davantage boire pour pouvoir faire le don.
Et à l'arrivée, ce sont les patients qui risquent d'en pâtir, explique la directrice adjointe de l'établissement français du sang, Sophie Lecam.
Aujourd'hui, on est encore en capacité de répondre aux besoins. Il se peut que dans certaines situations vraiment très particulières, et notamment quand il y a besoin de groupes sanguins particuliers, on soit obligé de décaler la transfusion. Alors évidemment, si c'est une urgence vitale immédiate, quelqu'un qui saigne abondamment, on n'en discute pas et on délivre ce qu'il faut délivrer. Et donc, c'est vrai que là, on a vraiment besoin d'une mobilisation des donneurs.
Surtout que le mois de juin est toujours primordial pour constituer des réserves avant l'été, les vacances et d'éventuelles nouvelles vagues de chaleur.
Alors que la France a connu son printemps le plus chaud depuis le début des mesures de Météo France, et l'ONU alerte déjà sur un épisode El Niño particulièrement marqué cet été, ces vagues de chaleur marine qui peuvent provoquer cyclones, sécheresses ou chaleur intense, potentiellement le plus puissant jamais enregistré.
Et c'est aujourd'hui l'hommage national à Edgar Morin.
Penseur du siècle, résistant, philosophe, écrivain, il est mort vendredi dernier à 104 ans. La cérémonie sera présidée tout à l'heure par Emmanuel Macron. Le sociologue Jean Viard fut l'un de ses compagnons de route.
L'hommage, c'est extrêmement fort parce que un grand croix à la Légion d'honneur, évidemment résistant. Mais ce qu'on enterre, c'est un homme. C'est pas une œuvre. L'œuvre n'est pas morte, elle va continuer. Il y a plus de 100 livres traduits dans 34 langues. Donc c'était un intellectuel international qui est un peu devenu notre mémoire du siècle. Donc moi, je dis, c'est un historien du présent. Il a en permanence vécu son époque, observé son époque. Et d'ailleurs, à la fin de sa vie, il me disait toujours, Jean, tu me mets philosophe derrière sur le dos du livre. Edgar Morin, philosophe.
Le sociologue Jean Viard avec Laurent Kramer. Et avant la cérémonie d'hommage national qui aura lieu à partir de 11h tout à l'heure aux Invalides, Edgar Morin, il avait gardé son nom de résistant. Et une autre figure de l'histoire a droit aux honneurs. Aujourd'hui, le général de Gaulle. Et c'est au cinéma, la bataille de Gaulle, l'âge de fer d'Antonin Baudry sort en salle, présenté en avant-première au dernier festival de Cannes. C'est le plus gros budget du cinéma français cette année. Le général de Gaulle incarné à l'écran par Simon Abkarian, un projet à l'envergure qui a impressionné Corinne Pélissier.
Le modèle est écrasant et ils sont nombreux par le passé à lui avoir prêté leur trait, de Samuel Labarthe à Lambert Wilson. Mais jamais la figure du général de Gaulle n'avait été abordée de manière aussi romanesque au cinéma, comme un Don Quichotte qui se bat pour le panache et pour la France.
La France n'a pas capitulé.
Vous n'êtes pas la France !
Le portrait d'un idéaliste fonceur, inconnu de tous, très éloigné lorsque débute le film en 1940 du futur grand char de la Ve République.
Le gouvernement français vous a déchu de votre nationalité. Martial nous a condamné à mort.
Autre chose. Paris, osé, Antonin Baudry, le réalisateur qui voulait éclairer la période à la lumière des écrits de l'historien britannique Julian Jackson, revisiter le mythe à hauteur d'homme avec de nombreux témoignages.
Je n'ai pas d'autre option.
Et dans la peau du général de Gaulle, Simon Abkarian, à la stature imposante, empreint de gravité, pas très ressemblant, mais peu importe ce que l'on retient du film, c'est son rythme, son humour et son esthétique audacieuse qui pousse à fond tous les curseurs d'effets spéciaux, de flammes, d'explosions pendant 2h40 pour un blockbuster qui devrait séduire les plus jeunes, avec en prime un casting XXL comprenant entre autres Nils Schneider, Mathieu Kassovitz et Benoît Magimel. La bataille de Gaulle dans les salles. Aujourd'hui, la première partie, l'âge de fer. Il y en a une deuxième annoncée le 3 juillet prochain. J'écris ton nom, c'est son titre.
Et France Inter va droit au but aujourd'hui.
Pas comme tous les jours, me direz-vous. Mais aujourd'hui, c'est avec un ballon. Une journée foot pour tous. À 8 jours de l'ouverture de la Coupe du Monde, Didier Deschamps sera dans quelques minutes dans ce studio. Mais déjà avec
à Clairefontaine.
À Clairefontaine, oui, oui. Vous avez
c'est
raison.
Nous qui sommes
c'est
allés
vous
sur son
vous
terrain.
Vous êtes déplacés. Et avec nous, sur notre terrain, dans ce studio, Nathalie Aneta, bonjour.
Bonjour Hélène,
directrice
bonjour à
des sports de Radio France. Avec vous, on part un peu loin des stars et de la Coupe du Monde de foot pour parler du football au quotidien de tout ce que ce sport représente en France.
Oui, on va revenir au terrain, mais celui du bout de la rue, le football est le premier sport collectif pratiqué en France par les garçons et par les filles. Ils ou elles sont près de 2 millions d'eux à chausser les crampons. Sur une classe d'âge, un garçon sur deux a au moins pris une licence, si on ajoute les filles. C'est un jeune sur trois qui va jouer au foot dans sa vie.
Et pourquoi ce sport attire-t-il autant les jeunes?
Bah parce qu'il est simple et pas cher, simple par ses règles et accessible par son prix aussi. En moyenne, pour un enfant, une heure de foot coûte 1 euro de l'heure à ses parents. Autant vous dire, rapport qualité-prix imbattable pour occuper les gamins, mais surtout les faire bouger, apprendre à vivre ensemble, respecter les règles, à perdre aussi et à se dépasser, à s'émanciper notamment pour les jeunes filles. Le tout grâce à 400 000 bénévoles qui animent un maillage territorial d'accès à la pratique unique. 95% de la population a un terrain de foot à moins de 3 km. Cherchez pas, aucune autre activité ne peut rivaliser.
Alors, est-ce qu'on peut encore faire mieux?
Alors, ça dépend beaucoup du parcours de l'équipe de France. On sait que si les Bleus brillent à un mondial, c'est 20 à 30% d'inscriptions en plus, alors qu'un désastre comme Naïsna conduit à une désaffection massive. Mais oui, il faut faire mieux pour la pratique des jeunes filles, pour les personnes en situation de handicap, pour le foot loisir aussi, chez les ados qui décrochent pendant le lycée, sans oublier les mots de la société, évidemment flagrants. Dans le monde amateur aussi, les violences, l'homophobie, le sexisme et des parents aux comportements souvent inacceptables à qui on ferait bien de rappeler que le foot, c'est d'abord un jeu.
Merci beaucoup Nathalie Aneta, avant de se diriger donc tout à l'heure à Clairefontaine.
Exactement, merci Hélène Philly, voici la météo.
La météo avec CNP Assurance. Jour après jour, avec CNP Assurance, assurons un monde plus ouvert.
Marie-Pierre Planchon, l'a senti, il fait plus frais ce matin.
Et oui, actuellement, vous n'avez pas plus de 4 à Val d'Isère, 8 en Lozère à Saint-Enimi, 12 à Albi comme à Célestat dans le Bas-Rhin, 13 à Vendôme, 14 à Béthune, vous avez 16 à Concarneau, 17 à Béziers, mais déjà 21 à Calvi. Et puis côté ciel, Florence, le sud retrouve un ciel bleu sur le pourtour méditerranéen sous l'effet d'un bon mistral et d'une bonne tramontane. Également du vent en Corse. Sur le reste du pays, la matinée restera en général très nuageuse, accompagnée que quelques ondées, notamment du Grand Est aux Alpes du Nord avec de la neige à 2100 mètres. Et puis on a déjà ce matin une nouvelle perturbation qui arrive par la Bretagne jusqu'au Pays de la Loire avec du vent qui souffle déjà bien fort.
Et cette perturbation va glisser vers l'Est dans l'après-midi.
Oui, et on la retrouvera de la Bretagne ou Charente remontant vers la Normandie Hauts-de-France avec un vent soufflant jusqu'à 70 km/h, même à l'intérieur des terres. Ça va rester nuageux sur un axe Nord-Aquitaine, bassin parisien, Ardennes et au sud de cet axe. Ce sera de plus en plus ensoleillé jusqu'à même le plein soleil autour de la Grande Bleue, au prix d'un bon vent sous des valeurs stationnaires un peu fraîches pour un début juin. Au nord, pas plus de 16 attendus à Stella-Plage, 17 à Dieppe, 19 au Mans, 20 à Paris, comptez 21 à Mulhouse, 22 à Bordeaux, 23 en Dail, et on montera jusqu'à 28 à Perpignan et Bastia, et même 29 au Lavandou, en se rappelant que le temps qu'il fait en juin, le 3, sera le temps de tout le mois.
Ah,
on fera le point à la fin.
Bon, bah écoutez, oui, on vérifiera. Merci Marie-Pierre. Place à Pieraski, géopolitique.
La grande matinale. Listen anywhere. Sur France Inter.
Bonjour Pierre.
Bonjour Florence.
Vous nous parlez de l'intelligence artificielle appliquée à l'information.
C'est un discours prononcé par le patron de l'un des journaux les plus influents au monde et qui a suscité un vrai débat. Arthur Sulzberger, l'héritier de la famille qui possède le New York Times, était lundi à Marseille où se tient le Congrès mondial des médias. Son discours a été publié par le site Le Grand Continent sous le titre « Comment sauver le journalisme au temps de l'IA ». L'enjeu de fait est moins le journalisme en tant que tel, ce n'est pas un combat corporatiste. L'enjeu est la démocratie, ou au moins l'accès à une information factuelle, fiable et plurielle, qui est la condition même du débat démocratique. Le patron du New York Times s'inquiète de la surpuissance des géants de la tech, qu'il accuse de chercher, je cite, « à démanteler définitivement les droits qui nous permettent de contrôler le travail que nous créons ». Les entreprises d'IA, explique-t-il, s'approprie des données sans consentement ni compensation. Il parle de vol.
Mais pourquoi est-ce que c'est aussi un enjeu démocratique, selon vous ?
Alors, l'histoire des 20 dernières années montre déjà comment les plateformes numériques ont capté une bonne partie de la valeur qu'elle est autrefois aux entreprises de presse. Elles ont aussi permis, parce qu'elles n'assument pas leurs responsabilités, la désinformation, la haine en ligne et un chaos informationnel. L'IA qui émerge à grande vitesse depuis l'apparition de ChatGPT il y a 4 ans n'est pas qu'une étape de plus. C'est un changement de paradigme puisque les IA ne renvoient pas de trafic vers les sites comme le font les moteurs de recherche. Elles offrent des réponses structurées qui s'appuient sur des contenus déjà publiés, utilisés sans que leurs auteurs ne soient rémunérés et sans validation professionnelle ou éthique comme des articles. Seuls les plus gros survivront dans cette jungle qui s'annonce. C'est là que le bât blesse. Le rapport de force est évidemment en faveur des géants de la tech. Sulzberger fait observer que la valeur combinée des 6 principales entreprises d'IA s'élève à 11 000 milliards de dollars. C'est 3 fois le PIB de la France.
Mais alors, y a-t-il des réponses possibles à cette menace ?
Alors, la principale réponse, Florence, peut sembler paradoxale, c'est le journalisme. Le patron du New York Times insiste, à juste titre, sur un point clé. La presse devrait s'imposer comme l'alternative fiable au chaos informationnel. Cela exige de reconquérir un public qui se méfie des médias traditionnels au profit des plateformes qui apparaissent comme plus neutres. Quand l'IA ne permet plus de distinguer le vrai du faux, c'est pourtant le journalisme professionnel qui doit être la réponse. Arthur Sulzberger reprend une remarque développée en son temps, avant Internet, par Hannah Arendt. Quand on vous ment, on ne cherche pas à vous faire croire le mensonge. On cherche à ce que vous ne croyez plus en rien. Il ajoute, cela a conduit à un sentiment croissant que l'on ne peut plus se fier à rien, exigeant de chacun une vigilance presque paranoïaque à propos de tout, ou pire encore, une descente vers le nihilisme. L'IA n'est ni bonne ni mauvaise, mais sans règles, elle devient la technologie de tous les dangers. Le cri d'alarme du patron du New York Times doit nous faire réfléchir.
Merci Pierre Aski, je rappelle que vous êtes président de Reporters sans frontières. Dans un instant, grand entretien XXL avec Didier Deschamps à Clairefontaine.
Ce mercredi dans Affaires Sensibles, Chirac Mitterrand, je t'aide moi non plus.
France Inter, 15h, Fabrice Drouel.
Depuis le studio 105 de la Maison de la Radio et de la Musique, je vous raconte les itinéraires croisés de ces leaders politiques devenus présidents.
Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand.
Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
Affaires Sensibles,
en direct et en public, c'est ce mercredi à 15h sur France Inter.
Penny Lane, l'outil compta, facturation et compte pro présente.
Quand la compta va, tout va.
Avec Penny Lane, je partage automatiquement tous mes documents et opérations avec mon expert comptable. Pratique pour recevoir ses conseils.
Avec Penny Lane, je pilote ma trésorerie en temps réel.
Avec Penny Lane, je crée mes devis et factures super facilement et je suis prête pour la réforme de la facture électronique.
Penny Lane, l'outil recommandé par des milliers d'experts comptables qui réunit compta, facturation et compte pro. Penny Lane.
Quand la compta va, tout va.
Il est 8h22.
France Inter, Benjamin Duhamel, Florence Paracuelos. La grande matinale.
Et un grand entretien très spécial ce matin puisque nous sommes à Clairefontaine, à 8 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football. C'est Didier Deschamps qui nous accueille sur son terrain, ici au centre de formation et d'entraînement de l'équipe de France, qu'il va une dernière fois tenter d'amener à la victoire.
Et avec nous jusqu'à 9h de très jeunes gens, des joueurs, des entraîneurs, ils vont vous poser des questions, Didier Deschamps. Et puis c'est Nathalie Yanetta, patronne des sports de Radio France, qui viendra conclure cet entretien avec quelques petites surprises pour vous.
C'est gentil.
Bonjour d'abord Didier
Deschamps.
Bonjour
à toutes et à tous.
Merci infiniment de nous recevoir ici à Clairefontaine, où vous avez pris vos quartiers pour votre ultime Coupe du Monde en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Qu'est-ce que vous vous êtes dit en arrivant ici ? Vas-y, profite, c'est ton dernier Clairefontaine ?
Alors ce mot-là, il revient entre dernier et dernière, il revient trop systématiquement. Moi je préfère dire c'est encore une fois, mais c'est un privilège évidemment, je suis venu très très souvent, puisque j'ai passé 11 ans de ma première vie en tant que joueur, et là c'est la 14e année, donc je sais pas que je suis pas nostalgique ou humain, mais je vais pas vous dire à chaque fois, je dors sur ce coussin, je parle à quelqu'un,
fois.
Même s'il y en a, et ouais. Vous en faites partie là, mais je croisais des gens même hier, qui m'ont dit, on peut faire une dernière photo, et puis je l'ai recroisé aujourd'hui, vous voyez bien. C'est une autre fois de plus.
Mais c'est ça qui est incroyable avec vous, Didier Deschamps, c'est que vous êtes champion du monde comme joueur en 98, comme entraîneur en 2018, finaliste en 2022, d'autres que vous se seraient dit, c'est bon. je peux m'arrêter là. Mais vous, non. Vous y allez encore une fois.
Ben, oui, si je suis là, c'est parce que j'ai l'énergie, j'ai tout ce qu'il faut pour aller le plus haut possible, bien évidemment.
Il faut aussi inscrire cette Coupe du Monde dans ce que ça implique pour les Français. Et on parle souvent, Didier Deschamps, d'un pays qui est fatigué de Français qui sont parfois moroses. Est-ce que vous réalisez que vous êtes quasiment l'un des seuls à pouvoir apporter autant de joie aux Français? Ça, c'est, ouais, ça met la pression, je vous vois sourire,
non,
mais
non,
c'est
non,
vrai.
Non, c'est pas on n'est pas là pour résoudre malheureusement tous les problèmes du quotidien des Français et des Françaises. On est dans notre bulle tout en étant dans pas déconnecté de la vie réelle. Donc, mais le sport, le football, qui est le sport le plus populaire, a cette capacité, toujours, il a toujours eu et continuera de le faire, de pouvoir réunir, rassembler, de fabriquer des émotions et de les partager.
Vous la sentez, la pression des 68 millions de Français? Vous arrivez à vous en abstraire?
C'est l'attente. Il y a une attente qui est là, qui est de plus en plus importante. À qui la faute? À nous, aux joueurs? Parce qu'on l'a créé aussi, donc...
Donc ça ne vous empêche pas de dormir, vous dire que tous les Français attendent qu'on aille en finale, qu'on gagne?
Non, mais
on se disait en préparant l'interview avec Florence que c'est presque pire que d'être président de la République et de devoir rendre des comptes tous les jours.
Non, parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec monsieur le président de la République qui comparait un peu comme vous le faites. Je dis, moi au moins, je prends des décisions qui peuvent faire plaisir. Malheureusement, dans son cas, je suis pas sûr, parce qu'on n'entend que des mécontents. Non, après, je dors très bien, ça me fait pas perdre ma tranquillité, ma sérénité. Faut pas basculer non plus dans que l'équipe de France a de très très bons joueurs. Oui, de très haut niveau. Les autres, ils ont quoi? Ils ont pas des...
Hein? Mais ça vous agace parce que vous êtes superstitieux?
Ça m'agace pas. Il y a rien qui m'agace. Il y a rien qui m'énerve. Je suis d'une tranquillité absolue. Non, mais après c'est une musique là qui ronronne. Voilà. Qu'on fasse partie des favoris. Il manquerait plus qu'on en fasse pas partie de parce que ce qu'on a réalisé. Mais c'est pas pour ça qu'il faut se voir trop beau et ne. Oui, l'ambition. Il faut l'avoir. Mais il faut avoir aussi l'humilité nécessaire parce que. Et dans ce groupe-là, il y en a beaucoup, ça va être leur première compétition. Il y a des impondérables aussi, blessures, pas blessures, formes, méformes, voilà, qui peuvent conditionner. Là-bas, les États-Unis, température, décalage.
Et il y a toujours des surprises dans une Coupe du Monde. Avant de parler de
dans
votre...
le dernier carré.
Dans c'est le dernier rare, carré, c'est vrai. Rare. Ah, donc on voit quand même apparaître un peu de confiance.
Je suis factuel.
Avant de parler de votre équipe, Didier, vous avez évidemment, comme nous, suivi la finale de la Ligue des Champions, là. La deuxième victoire d'affilée du Paris Saint-Germain, qui est en grande partie l'œuvre de l'entraîneur Luis Enrique. Ouais. Vous dites quoi quand vous avez vu quoi? Chapeau l'artiste, il est fort, ouais. Ça vous a impressionné?
Mais je l'ai dit déjà l'an dernier, parce que ça n'a pas été simple pour lui. Il avait ses idées, il a été au bout. Et le mérite, il le sait très bien, ça revient surtout aux joueurs.
Vous qui avez été entraîneur de club, qui êtes sélectionneur de l'équipe de France depuis 14 ans, c'est quoi la différence entre les deux? C'est pas le même coaching?
Non, mais c'est pas le même métier.
Ah ouais?
Ah, rien à voir.
C'est-à-dire?
Ben, vous êtes entraîneur de club, c'est du quotidien. Ouais. Pour en parler avec ce que je connais quand vous êtes dans un grand club, c'est 6 conférences de presse par semaine. C'est-à-dire avant chaque match et après chaque match.
Donc faut aimer ça, faut aimer pas.
Non, c'est pas que. Mais vous êtes confronté à quoi? À l'actualité du moment. Il y a des sujets qui sont très très sensibles, en plus du contexte géopolitique qui est très compliqué. Alors, joueur de l'équipe de France, il faut l'entendre, il faut qu'il prenne position. Ouais. Il prend position, mais oh, lui, il est joueur. Tais-toi. Pourquoi il a parlé? Donc, qui parle ou qui parle pas?
Vous parlez de Kylian Mbappé.
Oui, en particulier, mais il peut en avoir d'autres.
On va préciser qu'il a dit sa crainte de voir arriver un jour le Rassemblement National.
Non, je reparle pas de ça. Non, mais vous avez dit. Relancé, mais il y a
différents sujets. Non, mais vous avez dit, c'est un citoyen, il a le droit de s'exprimer.
Mais malheureusement, mais c'est pas que sur Kylian. Si vous prenez position, vous entendrez toujours la minorité. Elle est très très expressive. Après, c'est le monde d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux et tout ce que vous voulez. Donc,
mais il y a aussi des gens, Didier Deschamps, qui disent le foot, il est éminemment politique. On parlait tout à l'heure de la responsabilité qui peut être la vôtre parce que vous emmenez comme ça 68 millions de Français qui attendent la victoire. Pourquoi dire, moi, je veux pas en parler comme ça?
Mais c'est une liberté.
Ouais.
Pourquoi moi, j'ai ma propre décision, mais chacun, moi, je vais pas dire à un de mes joueurs, non, vous parlez pas de ça. De quel droit? Voilà, après, ils ont leurs propres convictions. Ce sont des citoyens français. On va pas résoudre, je vous le répète, OK, qu'on puisse se réunir. Ouais. Mais on peut pas résoudre les problèmes quotidiens de monsieur et madame tout le monde. Alors, c'est pas possible.
On va revenir au sport, Didier
oui,
Deschamps.
Oui, c'est bien, parce que c'est plus mon domaine.
Et justement, juste sur le sport, parce que ouais. sur le PSG, sur la double victoire du PSG, quand on a, comme vous, gagné la Ligue des Champions avec l'OM, est-ce qu'on a un petit pincement au cœur?
Il me cherche.
Ah ben, je suis désolé, c'est mon rôle.
Il m'a pris pour un perdreau de 3 semaines. Je suis au-dessus de ça depuis bien longtemps.
Ah bon,
évidemment. Et je suis sélectionneur de l'équipe de France.
On pourrait quand même avoir un petit pincement.